Chapitre 6. An 208 de la Grande Crise. Flotte trisolarienne à 2,07 années-lumière du système solaire. C'était un après-midi d'automne froid et pluvieux. L'assemblée des résidents du cinquième village de la Nouvelle Vie avait pris la décision d'expulser Luoji du quartier. La raison invoquée était la suivante. Sa présence affectait la vie ordinaire des habitants. Luoji était de temps en temps à l'extérieur pour assister à des réunions au sujet du chantier du champ de neige, mais il passait tout de même la majeure partie de ses journées dans le quartier. C'était depuis son domicile qu'il était en contact avec les différentes entités du projet. Depuis qu'il avait retrouvé son identité de colmateur, le cinquième village de la Nouvelle Vie était en surveillance permanente et cela influait sur la vie et le travail de ses habitants. Plus tard, avec le déclin de la position de Luoji, la surveillance du quartier s'était relâchée, mais la situation était devenue encore plus insupportable, car des foules de gens venaient fréquemment se rassembler au pied de son immeuble et l'interpellaient, se moquaient de lui, l'insultaient ou lançaient des pierres sur ses fenêtres. Les journalistes attirés par le spectacle étaient aussi nombreux que les protestataires. Mais la vraie raison de l'exclusion de Luoji était à trouver du côté de la désillusion profonde qu'il avait provoquée chez les hibernautes. Il était déjà tard le soir quand la réunion se termina. La directrice du conseil des résidents se rendit chez Luoji pour l'informer de la décision du conseil. Après avoir sonné plusieurs fois sans réponse, elle poussa la porte entrebâillée. L'appartement empestait une odeur suffocante d'alcool, de fumée de cigarette et de transpiration. Elle remarqua que tous les murs de l'appartement étaient revêtus d'une surface connectée telle qu'on en trouvait partout dans les villes souterraines, sur laquelle on pouvait ouvrir n'importe où des interfaces d'information. Les murs étaient recouverts d'une profusion d'images confuses, dont la plupart affichaient des données et des courbes complexes. L'image la plus grande montrait quant à elle une sphère suspendue dans l'espace, une bombe à hydrogène stellaire enveloppée d'oléatine. Cette matière translucide à l'intérieur de laquelle on pouvait clairement voir la bombe rappela à la directrice les billes avec lesquelles elle jouait, enfant. La sphère était en rotation lente. À un point de l'axe de la rotation se trouvait une petite proéminence, le moteur ionique. Sa surface lisse reflétait un petit disque solaire. Ses écrans scintillants faisaient de l'appartement une énorme boîte aux lumières tapageuses. Les lumières de la pièce étaient éteintes. Celle-ci n'était éclairée que par les images s'affichant sur les murs, ce qui faisait tout se confondre dans une lueur terreuse, si bien qu'il était difficile de distinguer ce qui était réel et ce qui appartenait aux images. Une fois que ses yeux se furent habitués à cette luminosité, la directrice eut l'impression de se retrouver dans une cave de drogués. Des mégots de cigarettes et des bouteilles d'alcool jonchaient le sol. La pile de vêtements sales était déjà tapissée d'une couche de cendres comme un tas de déchets. Elle eut bien du mal à trouver Luoji au milieu de ses poubelles. Il était recroquevillé dans un coin du mur semblant obscur, devant toutes les lumières scintillant dans la pièce. On aurait dit une branche morte abandonnée. Au début, la directrice crut qu'il dormait, mais elle s'aperçut très vite que ses yeux étaient écarquillés et fixaient, le regard vide, le sol couvert de déchets. Ses yeux étaient injectés de sang, il avait le visage hagard, et son corps paraissait déjà si faible qu'il ne semblait plus pouvoir supporter son propre poids. En entendant les salutations de la directrice, il tourna lentement son visage et la salua à son tour en hochant lentement la tête. Elle put avoir la certitude qu'il était bien vivant. Cependant, les tourments de 2 siècles s'étaient accumulés sur son corps et l'écrasaient à présent totalement. Devant cet homme qui avait épuisé jusqu'à ses dernières ressources, la directrice n'eut pas la moindre pitié. Comme ses contemporains, elle avait toujours cru que, quelle que fût la noirceur du monde, il existait forcément quelque part dans un lieu secret une justice ultime. Luoji avait d'abord confirmé cette croyance, puis il l'avait purement et simplement brisée, et elle était passée de la déception à la honte et de la honte à la colère. Elle lui annonça froidement la décision du conseil. Luoji hocha encore une fois lentement la tête, puis d'une voix enrouée, il dit « Je partirai demain. Je devais partir. Si j'ai fait quelque chose de mal, je vous demande pardon à tous. » La responsable ne comprendrait que 2 jours plus tard le sens réel de cette phrase. En réalité, Luoji avait eu l'intention de partir le soir même. Quand la directrice referma la porte, il se releva en hâte, alla dans la chambre pour prendre un sac de voyage, le remplit de quelques affaires, y compris une pelle courte qu'il avait trouvée dans la remise et dont la poignée triangulaire sortait du sac. Il attrapa ensuite une veste sale sur le sol, l'enfila, prit son sac sur le dos et sortit. Derrière lui, les murs continuaient à clignoter. Le couloir était vide, mais il rencontra au pied de l'escalier un enfant qui venait sans doute de finir l'école et rentrait chez lui. Il regarda Luoji avec une expression étrange et indéchiffrable jusqu'à ce qu'il quitte l'immeuble. Une fois à l'extérieur, Luoji remarqua qu'il pleuvait encore, mais il n'avait pas envie de rentrer prendre son parapluie. Il n'alla pas chercher sa voiture car cela aurait attiré l'attention des sentinelles. Longeant la route, il sortit du quartier sans rencontrer personne sur son chemin. Il traversa la forêt de protection des sables et arriva dans le désert. Une pluie fine caressait son visage à la manière d'une paire de petites mains glacées. Le désert et le ciel apparaissaient brumeux sous le crépuscule, comme le vide d'une peinture chinoise traditionnelle. Il s'imagina lui-même dans ce vide, à l'image de la dernière peinture laissée par Chuangan. Il rejoignit l'autoroute et, après quelques minutes d'attente, il héla une voiture occupée par une famille de 3 personnes qui l'invitèrent chaleureusement à monter. C'étaient des hibernautes qui retournaient dans la vieille ville. L'enfant était encore petit et la mère avait l'air très jeune. Tous deux se serraient sur le siège passager avant, se chuchotant des secrets. L'enfant jeta plusieurs fois sa nuque dans la poitrine de sa mère et chaque fois ils se mettaient à rire tous les 3. Luoji les regardait, émerveillé. Il n'entendait pas clairement ce qu'ils disaient car la radio diffusait des vieilles chansons du 20e siècle. Après en avoir entendu 5 ou 6, dont Katyusha et Les baies rouges ont fleuri, il se prit à espérer de tout son cœur entendre Sous l'aubépine, cette chanson qu'il avait fredonnée pour son amour imaginaire 200 ans plus tôt sur la scène d'un théâtre, à l'entrée d'un petit village, et plus tard pour Chuangyan au bord du lac où se reflétaient les monts enneigés dans leur jardin d'Éden d'Europe du Nord. À cet instant, les phares d'une voiture éclairèrent la banquette arrière. Et alors que l'enfant tournait involontairement la tête, il se retourna complètement et dévisagea Luoji en criant « Hey, regardez comme il ressemble au colmateur !» Les parents se retournèrent aussitôt et Luoji avoua qui il était. À cet instant, Sous l'aubépine résonna dans la voiture. Le véhicule s'arrêta. « Descendez !» décréta froidement le père tandis que la mère et l'enfant le toisait avec un regard aussi glacial que la pluie à l'extérieur. Luoji ne bougea pas. Il voulait écouter la chanson. « Veuillez descendre !» répéta l'homme. Luoji pouvait lire ses paroles dans leur regard. « Ce n'est pas votre faute si vous n'avez pas le pouvoir de sauver le monde, mais donner de l'espoir au monde pour le briser aussitôt après est un crime impardonnable. » Luoji se résigna donc à se lever et à descendre. Son sac de voyage fut jeté hors du véhicule. Quand celui-ci démarra, Luoji le suivit en courant sur encore quelques mètres. Il avait envie d'entendre encore un peu « Sous l'aubépine », mais la chanson finit par disparaître dans la nuit glaciale. Il se trouvait déjà à la frontière de la vieille ville. Les gratte-ciels de l'ancien temps étaient visibles dans le lointain, se dressant de toute leur noirceur dans la pluie. Les lumières isolées et éparses sur les bâtiments avaient l'air de petits yeux uniques. Luoji s'abrita de la pluie pendant près d'une heure sous un arrêt de bus, avant qu'un bus sans conducteur arrive dans la direction où il voulait aller. Il était à moitié vide, 6 ou 7 passagers, tous ayant l'air d'être des citoyens hibernautes de la vieille ville. Personne ne parlait. Tous supportaient en silence la morosité de cette nuit d'automne. La première partie du trajet se passa sans encombre, mais au bout d'une heure, quelqu'un finit par reconnaître Luoji, et les autres passagers exigèrent unanimement qu'il descende. Il essaya de se défendre en précisant qu'il avait acheté son ticket et qu'il avait le droit de s'asseoir, mais un vieillard aux cheveux blancs sortit 2 pièces qui semblaient très anciennes et devenues très rares de sa poche et les lui lança. Luoji se résolut finalement à descendre.
« Hé, colmateur, qu'est-ce que tu fais avec une pelle sur le dos ?»
demanda quelqu'un en passant la tête hors de la fenêtre.
« Je vais creuser ma tombe !»
répondit Luoji, déclenchant des éclats de rire dans le bus. Personne ne savait qu'il disait là la vérité. La pluie continuait à tomber. Il n'y aurait plus de voiture désormais. Par chance, il n'était déjà plus très loin de sa destination. Luoji enfila son sac à dos et avança. Après environ une demi-heure, il prit un virage et emprunta un petit sentier. À mesure qu'il s'éloignait des lampadaires, tout devint sombre autour de lui. Il sortit une lampe de poche de son sac pour éclairer le sol sous ses pieds. La route était de plus en plus escarpée et ses chaussures trempées clapotaient dans le sol boueux. Il glissa plusieurs fois. Son corps était maculé de fange et il n'eut d'autre choix que de sortir sa pelle pour s'en servir de canne. Devant lui, il ne voyait qu'une brume humide, mais il savait qu'il était dans la bonne direction. Après avoir marché encore une heure sous la pluie, Luoji arriva devant le cimetière. La moitié était déjà ensevelie sous le sable, tandis que l'autre émergeait encore en raison de l'élévation du terrain. Armé de sa lampe, il fureta entre les rangées de stèles, se désintéressant des grandes tombes fastueuses, ne cherchant que les inscriptions sur les sépultures les plus simples. Sur les pierres, la pluie reflétait la lumière, faisant apparaître des yeux clignotants. Luoji remarqua que toutes les stèles avaient été érigées à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Ces hommes avaient eu de la chance. Avant de partir, ils devaient être persuadés que le monde où ils avaient vécu demeurerait pour toujours. Luoji n'entretenait pas beaucoup d'espoir de trouver la tombe qu'il cherchait, mais il la repéra pourtant très vite. Étrangement, il la reconnut sans même avoir eu besoin de lire les inscriptions de la stèle, malgré les 2 siècles qui s'étaient écoulés. Peut-être avait-elle été lavée par la pluie, car la tombe ne comportait aucune trace du temps. Les 4 caractères pour « tombe de Yang Dong » semblaient avoir été gravés la veille. La tombe de Iwenji était à côté de celle de sa fille. En dehors du contenu des inscriptions, les 2 tombes étaient identiques. Sur celle de Iwenji ne figuraient que son nom et les dates de sa naissance et de son décès. Luoji repensa à la petite plaque commémorative sur les ruines de la base Côte Rouge. Des souvenirs pour oublier. Les 2 tombes se dressaient paisiblement sous cette pluie nocturne, comme si elles attendaient depuis toujours sa venue. Luoji se sentait épuisé. Il s'assit à côté de la tombe de Iwenji, mais il se mit vite à trembloter de froid. Prenant appui sur sa pelle, il se releva, puis commença à creuser sa propre tombe à côté de celle de la mère et de la fille. Creuser dans la terre humide ne lui demanda pas beaucoup d'efforts au début, mais quand il fut arrivé à une certaine strate, la terre commença à durcir et à être pleine de cailloux. Luoji avait l'impression qu'il était en train de creuser à même la montagne. Il ressentit en même temps la puissance et l'impuissance du temps. Peut-être que durant ces 2 siècles, une seule fine couche de sable s'y était déposée, mais cette longue période géologique sans homme avait produit cette montagne qui abritait le cimetière. Il creusa avec beaucoup de peine, se reposant toutes les quelques minutes avant de recommencer. La nuit s'écoulait sans même qu'il s'en rende compte. Quelque temps après minuit, la pluie cessa et les nuages commencèrent à s'écarter, révélant une partie de la voûte étoilée. C'étaient les étoiles les plus lumineuses que Luoji contemplait depuis son arrivée dans cette époque. Ce soir-là, 210 ans plus tôt, Iwenji et lui avaient fait face ensemble au même ciel étoilé. À présent, ils ne voyaient que les étoiles et les stèles, mais c'étaient les 2 meilleurs symboles de l'éternité. Luoji finit par être à bout de force et n'arriva plus à creuser. Regardant le trou, il vit qu'il était encore peu profond pour une tombe, mais il ne pouvait pas faire plus. S'il agissait ainsi, ce n'était après tout qu'une manière de rappeler qu'il souhaitait se faire enterrer ici. Car son ultime demeure aurait probablement été le crématorium, où il aurait été brûlé et ses cendres répandues dans un endroit inconnu. Mais ce n'était pas très important. Il y avait de fortes chances que, dans peu de temps, ses cendres, à lui comme celles de ce monde, seraient bientôt réduites à des atomes individuels lors d'une incinération bien plus grande.
Adossé à la stèle de Iwenji, Luoji tomba rapidement dans le sommeil. Peut-être en raison du froid, il rêva encore de la plaine enneigée. Une nouvelle fois, il vit Chuang Yan et leur enfant dans les bras, son écharpe rouge comme une flamèche. Elle et son enfant l'appelaient sans voix, et lui leur criait désespérément de s'éloigner car la gouttelette allait frapper ici. Mais ses cordes vocales ne produisaient aucun son. C'est comme si ce monde était déjà devenu muet, comme si tout était plongé dans un absolu silence de mort. Mais Chuang Yan sembla comprendre ce qu'il voulait dire, et elle s'éloigna sur la plaine enneigée avec son enfant, ne laissant derrière elle qu'une rangée d'empreintes de pas sur la neige, comme une légère trace d'encre sur une peinture traditionnelle. La plaine n'était qu'une étendue de vide, et seule cette trace permettait de révéler l'existence de cette terre et du monde. Tout redevint comme la peinture de Chuang Yan. Luoji comprit soudain que même en s'éloignant, elle ne pouvait échapper au désastre, car la destruction à venir emporterait tout. Mais cette destruction n'avait rien à voir avec la gouttelette. Son cœur fut une nouvelle fois déchiré par la douleur, et ses mains s'agitèrent dans l'air comme si elles essayaient d'attraper quelque chose, mais dans la blancheur de la plaine, il n'y avait que la silhouette lointaine de Chuang Yan qui n'était maintenant plus qu'un petit point noir. Il regarda tout autour de lui, cherchant quelque chose de réel dans ce monde de néant. Et il le trouva. Deux stèles noires se dressaient côte à côte sur la plaine enneigée. Tout d'abord très limpides, leurs surfaces se mirent à changer. Elles devinrent miroitantes, comme celles de la gouttelette. Les inscriptions funéraires avaient disparu. Luoji se prosterna devant l'une des stèles pour se voir à travers, mais il n'avait aucun reflet dans le miroir. La plaine reflétée par la surface miroitante des stèles ne montrait pas non plus celle de Chuang Yan. Il n'y avait que cette rangée d'empreintes de pas sur la neige. Il se releva brusquement et vit que la plaine en dehors du miroir n'était qu'une étendue de vide. Même les pas avaient disparu. Alors il se retourna encore pour regarder les miroirs. Ils reflétaient un monde intensément blanc, eux-mêmes étaient presque invisibles. Mais sa main pouvait encore toucher leur surface, lisse et glacée. Quand Luoji se réveilla, c'était déjà le point du jour. Sous les premiers rayons de l'aube, le cimetière était clair. En regardant de là où il était étendu, les tombes lui parurent être des mégalithes de Stonehenge. Il avait une forte fièvre. Ses dents claquaient violemment et il grelottait. Son corps était comme une mèche brûlant à sec et se consumant elle-même. Il savait que le moment était venu. Luoji s'appuya sur la tombe de Iwenji pour se relever, mais un petit point noir sur celle-ci attira son attention. Les fourmis étaient rares en cette saison, mais c'était bel et bien une fourmi qui gravissait la stèle. Comme sa congénère, deux siècles auparavant, elle était attirée par les inscriptions funéraires et elle entama l'exploration de ses tranchées secrètes aux lignes entrecroisées. En la regardant, Luoji fut pris pour la dernière fois d'une convulsion de douleur, mais cette fois, c'était pour toutes les créatures vivantes de la Terre.
« Si je faisais à l'avenir quelque chose de mal, pardon, » dit-il à la fourmi.
Luoji parvint à se relever, non sans mal, tremblant de faiblesse. Il ne put se maintenir debout qu'en s'appuyant sur la stèle. Il sortit une main, arrangea ses cheveux mouillés, pleins de boue et hirsutes, puis il chercha à prendre une sorte d'objet tubulaire dans le haut de sa veste, un pistolet déjà chargé. Il se plaça face à la lueur du soleil levant et commença la dernière confrontation entre la civilisation terrestre et celle de Trisolaris.
« Je parle à Trisolaris, » dit Luoji à voix basse.
Il voulut au début répéter sa phrase, mais il savait qu'ils écoutaient. Rien n'avait changé. Les stèles se dressaient toujours paisiblement dans la torpeur de l'aube.
Les flaques d'eau sur le sol reflétaient le ciel de plus en plus brillant, tels des miroirs. Elles faisaient naître l'illusion que la terre elle-même était une sphère miroitante et que le sol, comme le monde, n'était que de fines couches à son sommet. Maintenant lavée par la pluie, cette surface sphérique, lisse et miroitante, révélait seulement quelques-uns de ses fragments. Ce monde, qui n'était pas encore réveillé, ignorait qu'il avait été poussé comme un jeton sur le tapis de jeu de l'univers. Luoji leva la main gauche et dévoila un objet de la taille d'une montre accroché à son poignet. C'est un moniteur de surveillance de signes vitaux. Il fonctionne grâce à un émetteur relié à un système de berceau. Vous vous rappelez certainement ce qui s'est passé il y a 2 siècles avec le collimateur Ray Diaz, et vous savez nécessairement de quoi je parle. Les signaux sont envoyés par l'émetteur jusqu'aux 3614 bombes du chantier du champ de neige déployées en orbite solaire. Le signal est transmis une fois par seconde de manière à garder les bombes dans un état stationnaire. Si je venais à mourir, les signaux de maintien du système de berceau cesseraient et toutes les bombes exploseraient, changeant les membranes d'oléatine en 3614 nuages de poussière spatiale autour du Soleil. Vu de loin, le Soleil scintillera à travers ces nuages à la longueur d'onde de la lumière visible et à d'autres fréquences de longueur d'onde élevées. La position de chaque bombe en orbite a été soigneusement étudiée, de manière à ce que le scintillement génère un signal transmettant 3 figures simples, à l'image de celle que j'ai envoyée il y a 2 siècles. Chacune de ces figures est un agencement de 30 points, dont l'un est particulièrement mis en valeur. Il compose une carte de coordonnées en 3 dimensions. La différence, c'est que cette fois elle révèle la position relative de Trisolaris, avec les 29 étoiles autour d'elle. Le Soleil deviendra ainsi un phare galactique, faisant rayonner ma malédiction dans l'espace. Bien sûr, à cette occasion, les positions de la Terre et du système solaire seront aussi exposées. Dans n'importe quel endroit de la galaxie, la réception de ces figures durera plus d'un an. Mais il existe certainement des civilisations possédant des technologies capables d'observer le Soleil avec différents points de vue simultanés. Par conséquent, celles-ci n'auront besoin que de quelques jours, voire quelques heures, avant d'obtenir l'information en entier. En suivant la luminosité grandissante du jour, les étoiles s'effacèrent les unes après les autres comme d'innombrables paupières se fermant, tandis que l'aube qui se levait à l'est s'ouvrait lentement, à la manière d'un gigantesque œil unique. La fourmi continuait son ascension sur la stèle de Iwenji. Elle traversait maintenant le labyrinthe formé par son nom. Son espèce vivait déjà sur cette terre des centaines de millions d'années avant que n'apparaisse ce joueur de poker debout et adossé à la stèle. Une partie de ce monde lui appartenait, mais elle ne se préoccupait pas de ce qui se passait à cet instant. Luoji quitta la stèle et alla se placer à côté de la tombe qu'il avait creusée pour lui. Puis il braqua le pistolet sur son cœur et ajouta « À présent, je vais faire cesser les battements de mon cœur et je vais devenir au même moment le plus grand criminel de toute l'histoire de nos deux mondes. Je demande aux 2 civilisations de bien vouloir accepter mes plus sincères excuses au sujet du crime que je m'apprête à commettre. Mais je n'éprouve aucun regret, c'était la seule option possible. Je sais que les intellectrons sont autour de moi. Mais vous n'avez jamais prêté l'oreille aux appels des hommes. Le silence est le plus grand des mépris. Depuis 2 siècles, nous subissons ce mépris. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à rester muet. Je ne vous donne que 30 secondes. » Luoji compta les secondes en se basant sur les battements de son cœur, comptant 2 palpitations par seconde car ceci était particulièrement rapide. Pris d'une extrême nervosité, il se trompa et dut reprendre depuis le début si bien que si les intellectrons se montraient, il ne pourrait savoir combien de temps se serait écoulé. Peut-être après moins de 10 secondes du temps objectif, une vie entière selon un temps subjectif, il vit le monde se scinder en 4 parties. l'une faite du monde réel autour de lui, et les trois autres, des reflets déformés de celui-ci. Ces reflets provenaient de trois sphères qui avaient soudain émergé au-dessus de lui. Toutes possédaient une surface entièrement miroitante, comme les stèles de son rêve. Il ne savait pas en quelle dimension s'étaient déployés les intellectrons, mais ces trois sphères étaient si grandes qu'elles occupaient la moitié du ciel et empêchaient l'horizon de s'éclairer à l'est. Dans le ciel d'ouest qui se reflétait dans les sphères, il vit quelques rémanences d'étoiles et, en bas des sphères, le reflet déformé du cimetière et de lui-même. Il mourait d'envie de connaître la raison de ce chiffre 3. Il pensa tout d'abord à un symbole de ce monde à trois corps, tout comme l'œuvre d'art que Iwenji avait vue lors de la dernière réunion de l'OTT. Mais quand il regarda les reflets déformés et extraordinairement clairs de la réalité du monde dans les trois sphères, il eut le sentiment qu'elles étaient trois portes menant vers trois mondes parallèles, trois directions possibles. Toutefois, ce qu'il vit ensuite mit une nouvelle fois à l'épreuve son imagination, car les trois sphères affichèrent le même mot.
« Arrête !»«
Puis-je discuter des conditions ?» demanda Luoji en levant la tête.
« Pose d'abord ton pistolet, puis nous pourrons négocier. »
Les mots s'affichaient en simultané sur les trois sphères, rouges et éclatants. Luoji ne vit aucune déformation des lignes de texte. Elles étaient droites, et on avait l'impression en les regardant qu'elles apparaissaient à la fois dans et à la surface des sphères. Il se rappela que ce qu'il voyait n'était que la projection dans le monde tridimensionnel d'un espace à plus haute dimension. « Ce n'est pas une négociation, ce sont mes exigences pour continuer à vivre. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous les acceptez. »«
Émets tes conditions. »«
Faites que la gouttelette ou la sonde cesse ses transmissions vers le soleil. »«
Cela est fait. »
La réponse de la sphère avait été incroyablement rapide. Luoji n'avait pour l'instant aucun moyen de vérifier la véracité de cette parole, mais il sentit comme des changements infimes autour de lui, comme si un bruit de fond permanent n'ayant jamais été détecté par les hommes s'était évanoui. Naturellement, ce pouvait bien n'être qu'une illusion, car les hommes ne ressentent pas les radiations électromagnétiques. « Donnez l'ordre aux 9 sondes en route vers le système solaire de changer immédiatement de trajectoire et de s'envoler ailleurs. » Cette fois, la réponse des trois sphères n'arriva qu'après quelques secondes.
« Cela est fait. »
« Donnez un moyen aux humains de pouvoir s'en assurer. »«
Les 9 sondes émettront une lumière visible. Votre télescope Ringer Fitzgerald pourra les détecter. »
Luoji n'avait toujours pas la possibilité de le vérifier, mais il croyait Trisolaris. « Ma dernière condition. La flotte trisolarienne ne doit pas franchir le nuage d'Oort. »
La flotte est maintenant déjà en propulsion maximale pour décélérer. Il lui est impossible d'atteindre une vitesse relative de 0 avec le soleil avant de parvenir à l'extrémité du nuage d'Oort.
Alors faites comme avec votre groupe de gouttelettes. Donnez-leur une nouvelle trajectoire en dehors du système solaire.
N'importe quel changement de trajectoire mènerait à la mort. La flotte dépasserait le système solaire et rentrerait dans la désolation de l'espace. L'écosystème à bord des vaisseaux ne tiendra pas assez longtemps pour envisager un retour à Trisolaris ou partir à la recherche d'un autre système stellaire habitable.
Pas forcément la mort. Des vaisseaux humains ou trisolariens pourraient peut-être les rattraper et les secourir.
Cela requiert l'ordre du chancelier.
Si un changement de trajectoire est un processus long pour votre flotte, commencez dès maintenant. Cela donnera une chance à toutes les créatures vivantes et à moi de survivre.
Le silence dura cette fois-ci 3 minutes.
La flotte commencera à changer de trajectoire dans 10 minutes terriennes. Dans 30 minutes environ, les systèmes d'observation spatiale humains pourront remarquer ce changement.
Bien. Cela suffit en ce qui me concerne, dit Luoji en écartant le pistolet de sa poitrine. Son autre main était posée sur la stèle et il se tenait pour ne pas tomber.
Vous saviez déjà que l'univers était une forêt sombre ?
Oui, depuis longtemps. Ce qui est étrange, c'est que vous ne l'ayez compris que si tard. Ton état de santé nous inquiète. Cela ne risque-t-il pas d'interrompre accidentellement les signaux de maintien du système de berceau ?
Non,
Ce dispositif est bien plus perfectionné que celui de Ray Diaz. Tant que je vivrai, les signaux ne seront pas interrompus.
Tu ferais mieux de t'asseoir. Tu iras mieux.
Merci, dit Luoji qui s'assit contre la stèle. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir.
Nous sommes en train d'établir le contact avec les plus hautes sphères des deux entités internationales. As-tu besoin qu'on t'appelle une ambulance ?
Luoji sourit en secouant la tête. Pas besoin, je ne suis pas le Messie. Je suis juste un homme ordinaire qui souhaite partir d'ici et rentrer chez lui. Je partirai quand j'aurai pris un peu de repos.
Deux des trois sphères disparurent. Le texte resta sur la dernière dont la lumière était devenue terne. Elle semblait triste et sombre.
Nous avons échoué à déchiffrer ta stratégie.
Luoji hocha la tête. Bloquer le soleil avec des nuages de poussière pour envoyer des messages vers d'autres étoiles n'était pas mon idée. Un astronome y avait déjà songé au XXe siècle. En réalité, vous avez eu à plusieurs reprises la possibilité de voir clair dans mon plan. Durant tout le chantier du champ de neige, je me suis montré très tatillon sur le choix de l'emplacement exact des bombes en orbite solaire.
Tu as même passé tes deux derniers mois dans ton bureau à ajuster la position des bombes grâce à leur moteur ionique. Nous n'y avons à ce moment-là accordé aucune importance, car nous pensions que tu cherchais simplement un moyen d'échapper à la réalité. Nous n'avons jamais imaginé que la distance entre les bombes pouvait avoir un sens.
Il y a eu une autre opportunité. Lorsque j'ai discuté avec une équipe de physiciens de la question du déploiement des intellectrons dans l'espace, si l'OTT avait encore existé, elle aurait percé mon secret.
Oui, les abandonner a été une erreur.
Et aussi lorsque j'ai exigé de construire cet étrange système de berceau pour le chantier de champs de neige.
Cela nous a en effet rappelé Ray Diaz, mais nous n'avons pas réfléchi davantage. Il y a deux siècles, Ray Diaz avait été inoffensif, tout comme les deux autres colmateurs. Nous avons déplacé sur toi le mépris que nous éprouvions pour eux.
Il était injuste de les mépriser, c'étaient tous trois de grands stratèges. Ils avaient tous perçu que l'humanité perdrait nécessairement l'ultime bataille.
Peut-être pouvons-nous commencer à négocier.
Ce n'est pas de mon ressort, dit Luoji. Puis il poussa un long soupir. Il ressentait à présent de l'apaisement et la satisfaction de renaître.
En effet, tu as accompli ta mission de colmateur. Mais peut-être as-tu quelques suggestions ?
Les négociateurs humains commenceront sans aucun doute par demander que vous les aidiez à construire un meilleur système de transmission pour que l'humanité ait la capacité d'envoyer à tout moment une malédiction dans l'espace. Même si la gouttelette cesse son verrouillage du soleil, notre système actuel reste encore trop primitif.
Nous pourrons aider à construire un système de transmission par neutrino.
J'imagine qu'ils seront plus enclins à vouloir utiliser les ondes gravitationnelles. Après l'arrivée des intellectrons, c'est le domaine dans lequel la physique humaine a le plus progressé. Naturellement, ils auront besoin d'un système dont ils peuvent comprendre les principes.
Les antennes à ondes gravitationnelles seront gigantesques.
C'est une affaire entre eux et vous. C'est étrange. Je ne me sens maintenant plus un membre de l'espèce humaine. Mon plus grand souhait à présent est de me libérer de tout cela au plus vite.
Ensuite, ils exigeront que nous fassions tomber les barrières érigées par les intellectrons et que nous leur transmettions nos sciences et nos technologies.
C'est aussi quelque chose de très important pour vous. La technologie trisolarienne s'est développée à vitesse régulière et après deux siècles, vous n'avez toujours pas été en mesure d'envoyer des vaisseaux plus rapides. Pour secourir votre flotte actuellement en vol, vous aurez besoin de l'aide des humains.
Je dois partir. Es-tu sûr de pouvoir rentrer seul ? De ta vie dépend celle de deux civilisations.
Aucun problème. Je me sens bien mieux à présent. Quand je serai rentré, je céderai immédiatement mon système de berceau. Puis j'en aurai enfin terminé avec tout cela. Pour finir, je voudrais encore vous dire une chose. Merci.
Pourquoi ?
Parce que vous m'avez laissé vivre. Ou bien, si on voit les choses autrement, nous pouvons dire que vous nous avez laissé vivre, tous les deux.
Les sphères disparurent, retournant à leur monde microscopique en 11 dimensions.
Quelques rayons de soleil perçaient déjà à l'est et aspergeaient d'or ce monde qui venait d'échapper à la destruction. Luoji se leva lentement. Il regarda une dernière fois les tombes de Iwenji et Yangdong, puis il repartit en boitillant le long du chemin qu'il avait pris pour venir. La fourmi avait déjà atteint le sommet de la stèle et pointait avec fierté ses deux antennes vers le soleil levant. De toutes les créatures vivantes de la terre, elle avait été le seul témoin de ce qui venait de se passer.